Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, cette semaine, eh bien, deux sites industriels qui vont bientôt sortir de terre en France d'ici 2025. Le premier, dans les Bouches-du-Rhône, va accueillir la plus grande usine européenne de photovoltaïque, de panneaux photovoltaïques. Et puis le second, dans l'Isère, va voir renaître la production de paracétamol en France. Lui aussi a fait le pari du produire en France. Pierre Guillou, fondateur, cofondateur d'Eurosound, est notre premier invité. Eurosound, ce sont des casques anti-bruit à utiliser dans les bureaux. Nous parlerons des axes de développement d'Eurosound, mais aussi de la levée de fonds récente de 5 millions d'euros de l'entreprise. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons du succès du secteur de la franchise en France à l'occasion du salon Franchise Expo Paris qui ouvre ses portes ce week-end. Mes deux invités pour en parler sont Sylvie Gaudy, la directrice du salon, mais aussi Benoît Lahaye qui a créé et développé le réseau Attila qui regroupe plus d'une centaine de franchisés dans le domaine de l'entretien et de la réparation des toitures. Et donc après notre émission spéciale la semaine dernière au Salon Global Industrie de Lyon, on va une nouvelle fois rappeler que la France a vraiment besoin d'usines sur son territoire et notamment de méga-projets qui créent beaucoup d'emplois et qui en plus renforcent notre souveraineté. Un exemple avec cette annonce récente, la sortie de terre d'ici 2025 de la plus grande usine européenne de panneaux photovoltaïques. Ce sera à Fos-sur-Mer, près de Marseille. Un investissement d'1,5 milliard d'euros qui doit créer 3000 emplois directs. Nathan Cogampo nous détaille ce projet porté par Carbone, une jeune start-up lyonnaise. Et juste après, on écoutera Pierre-Emmanuel Martin, c'est le président de Carbone.
Ce sera la plus grande usine de ce type en Europe. Cette giga-usine doit produire des composants et des panneaux photovoltaïques qui sont aujourd'hui pour l'instant largement fabriqués en Chine. C'est un enjeu donc de souveraineté nationale et européenne et de reconquête face à la Chine. L'usine, qui sera entièrement électrique, doit coûter 1,5 milliard d'euros au total. Fos-sur-Mer, fort de nombreuses connexions maritimes, ferroviaires, ainsi qu'à un bassin d'emploi attractif, a été choisi devant un site des Hauts-de-France et du Grand Est. 3000 emplois directs doivent être créés. La start-up Carbone, à l'origine de ce projet, a été créée il y a un an à Lyon. Dans un premier temps, elle vise une capacité de production de 5 gigawatts par an d'ici à 2025 et ambitionne d'atteindre 20 gigawatts en 2030, l'équivalent d'une vingtaine de réacteurs nucléaires.
C'est là l'ambition, hein, c'est de réussir à revenir sur notre souveraineté, notre indépendance. La Chine est à peu près 90% le gros acteur du secteur, donc a une certaine pouvoir et de distorsion et de dumping. Mais effectivement, nous serons compétitifs, modulo, quelques règlements sur des distorsions.
C'est quand même vertigineux là, quand même. 1,5 milliard, 3000 emplois directs.
Tout à fait.
Que vous allez créer à Fos-sur-Mer.
Pourquoi Fos-sur-Mer particulièrement? C'était le port de Marseille qui vous a...
Tout à fait. Alors d'abord parce qu'il faut un site qui puisse accueillir une giga-usine, c'est-à-dire des giga-hectares. Enfin, il faut à peu près 60 hectares.
Il faut de la place.
Oui. Des bâtiments font 35 hectares, mais après il faut des aménagements. Puis surtout, on veut de la place pour pouvoir faire une usine 4.0 qui puisse accueillir dans de bonnes conditions nos collaborateurs. Et Fos-sur-Mer, c'est imposé après un travail minutieux parce que c'est non seulement de la place, mais de l'énergie, de l'eau et surtout du dégagement, puisque nous aurons à peu près 300 000 à 400 000 tonnes de matériaux qui rentrent et qui sortent. Ah et oui. Donc, il nous fallait une capacité d'accueil portuaire importante. Et surtout, on l'a remarqué, c'est un alignement des collectivités locales et de l'État. On a été reçu par le préfet qui a été très, très important dans notre décision. Vraiment, on a une équipe de Marseille, là, pour le coup, qui nous soutient fortement.
Voilà, donc quand l'État, les collectivités et le privé travaillent ensemble, eh bien ça donne souvent de très bons résultats. On vient de le voir avec cette entreprise Carbone. Encore un exemple avec cette fois-ci le paracétamol. En 2020, au début de la crise du Covid, on s'est aperçu eh bien que nous n'en fabriquions plus en France et que l'on était dépendant de pays comme la Chine et comme l'Inde. Trois ans plus tard, le groupe Séquence vient donc de lancer à Roussillon, dans l'Isère, la construction d'une usine de production de paracétamol à destination notamment des groupes français UPSA et Sanofi. Et là encore, l'État, via le plan France Relance, a largement contribué à la réussite du projet. Dans l'Isère, le reportage d'Alexandra Pagé.
2 hectares, 15 000 tonnes de capacité dès 2026. Avec cette nouvelle unité en train de sortir de terre, Séquence compte produire bien au-delà des besoins français en doliprane et même répondre à la moitié des besoins européens grâce à une usine plus compétitive sur laquelle veille Jérôme Genest.
Un nouveau procédé avec un impact environnemental 5 à 10 fois inférieur aux unités existantes en Asie. Donc la rentabilité doit se calculer sur l'ensemble. Une empreinte carbone diminuée par quasiment 75%. C'est important qu'on prenne tous ces aspects-là dans les achats de demain de nos médicaments et nos principes actifs.
Cette nouvelle usine, c'est 100 millions, le plus gros investissement de l'histoire de Séquence, en partenariat avec l'État dans le cadre du plan France Relance et avec UPSA et Sanofi. De quoi rendre à la France sa souveraineté sur le Doliprane, selon Robert Monti, directeur général des activités aspirine et paracétamol de Séquence.
Vous dépendez de l'Inde à hauteur de 25%, voire plus, de la Chine à hauteur de 50%, c'est ce qui est le cas de l'Europe et de la France aujourd'hui. La moindre décision locale, ça va conduire à potentiellement une fermeture des frontières ou une baisse des exports. Donc oui, on doit défragiliser la chaîne.
Le groupe pharmaceutique a d'autres projets en France, notamment le développement de principes actifs anticancéreux et antiviraux dans le Gard, près de Nîmes.
Et j'ajoute que les premières boîtes de Doliprane et Feralgan et autres d'Afalgan devraient être en pharmacie début 2025. Bonjour Pierre Guéhu.
Bonjour Jérôme Tichy.
Vous aussi, vous avez fait le choix de produire en France. On va y revenir dans un instant. Mais tout d'abord, on va rappeler le cœur de votre activité chez Orosound. Orosound, eh bien, ce sont ces casques anti-bruit. Vous en avez un juste à côté de vous. Qu'est-ce que vous avez développé depuis 2015?
Orosound, effectivement, s'est créé en 2015, il y a 8 ans. Est un constructeur de micro-casques professionnels. Focus sur la technologie anti-bruit. On est spécialiste mondial de l'annulation de bruit, que ce soit pour le porteur du casque, mais également pour sa prise de voix. Ces casques sont utilisés aujourd'hui dans de nombreux bureaux. On est déployé sur près d'une centaine de pays avec plus de 3000 clients qui utilisent nos casques au quotidien pour faire leurs visio, pour faire leurs appels téléphoniques et pour travailler plus efficacement, qu'on soit au bureau, qu'on soit chez soi ou qu'on soit même à l'extérieur aujourd'hui.
Vous avez lancé la production quand et à date, donc en ce mois de mars 2023, vous en avez vendu combien? Il y a eu plusieurs générations, je crois, mais combien vous avez vendu de ces casques de la gamme Tilde?
Alors, dans l'historique de la gamme Tilde, le premier produit est sorti d'usine chinoise en 2018 et on a travaillé sur le design du produit, sur les méthodes pour sortir en 2020 ce produit-ci, le casque Tilde Pro d'usine en France, chez Azika, à Saint-Malo et à Granville. Depuis 2020, on a vendu plus de 30 000 de ce produit-ci. Cette année, on a un nouveau produit qui sort à nouveau d'usine française avec un positionnement prix encore plus agressif.
Alors, on va parler de ce nouveau produit dans quelques instants. Je reviens d'abord sur le choix de la relocalisation, puisque donc vous l'avez dit, vous avez commencé en Chine, puis ensuite le choix de la France. Donc, il y a deux usines, une à Saint-Malo, une à Granville dans la Manche. Pourquoi, à l'époque, ce choix du retour en France, du Made in France?
C'était une volonté de notre part, je pense, le premier choix. Et une volonté de faire en France, de créer de l'emploi en France. On a un savoir-faire très important en termes d'ingénierie. Ces casques-là intègrent 10 microphones. Ils intègrent 3 puces numériques avec de nombreuses lignes de code dessus. Tout ce savoir-faire-là, il est en France. Il est en France sur le savoir-faire logiciel, sur le savoir-faire de production, sur le savoir-faire de calibration en production. Quand vous avez 10 microphones, on est sur des produits qui ressemblent quelque part à des produits médicaux dans la nécessité de qualité de production.
Alors votre chiffre d'affaires, il est donc lié bien sûr à la vente de ces produits, mais il est aussi au fait que vous avez licencié la technologie. C'est votre deuxième source de revenus depuis quelques années et vous amplifiez un peu ce phénomène de licensing.
Alors on l'amplifie, oui. L'an dernier, il a représenté un peu plus du tiers de notre chiffre d'affaires. Pourquoi cette seconde activité? Aujourd'hui, on est une marque qui reste trop confidentielle à nos yeux. On vend les casques par dizaines de milliers. Notre technologie, elle s'adresse à tous. elle s'adresse pas que dans le bureau, elle s'adresse également dans des casques qui peuvent être portés dans la rue, dans tout type d'usage. Donc on vend nos technologies sous forme logicielle, nos technologies d'annulation de bruit pour des grandes marques de l'audio, des marques qui font
lesquelles,
des casques par centaines de milliers ou par un million. Alors je suis tenu par des
mais des grandes marques,
accords de confidentialité,
grand public quoi, que tout le monde connaît.
Des très grandes marques qui sont perçues par le grand public comme des marques extrêmement technologiques et elles ne souhaitent pas qu'on dise que ce soit
absolument
nous qui fassions la technologie derrière.
Vous êtes en marque blanche, hein, voilà.
Exactement.
Votre actualité de ce début 2023, c'est aussi une levée de fonds de 5 millions d'euros qui permet l'entrée dans votre capital de Go Capital, qui est très spécialisé dans l'ouest de la France. Et comme vous le produisez là, ça tombe bien. C'est quoi le but de ces 5 millions? Ils vont vous servir à quoi?
Ils vont servir à pousser la croissance face au développement de 2021 et 2022. Comme vous l'avez dit, sur ces deux dernières années, on a posé deux choses, des bases à l'international et des développements technologiques qu'on peut vendre directement sous forme logicielle à des clients. On a prouvé ça avec nos clients. Aujourd'hui, ces 5 millions, ils servent à accélérer. On va passer de 40% de part à l'international avec un objectif à 56% cette année.
Donc plus de la moitié de votre production vont être vendues à l'étranger d'ici la fin de l'année.
Oui, c'est pour beaucoup aux États-Unis. Aujourd'hui, ça se développe, c'est le territoire à plus forte croissance pour nous. Et l'activité de licensing est par essence internationale.
Et puis une nouvelle génération de casques, est-ce que j'imagine que technologiquement les choses avancent beaucoup, qu'il y a de la concurrence aussi qui se met en place, donc il faut toujours avoir une R&D importante, et est-ce qu'il y a une nouvelle technologie ou de nouveaux casques qui arrivent bientôt sur le marché?
Alors il y a beaucoup d'avancées dans ce domaine, il y a plein de choses qui sortent. Donc on sort cette année une nouvelle génération de casques basée sur une nouvelle génération de puces électroniques qui permettent pour la première fois d'intégrer des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors on en parle partout, pour nous c'est une réalité dans le monde du casque, c'est une réalité de cette année. Et on a la chance en France d'avoir un des leaders, un des pionniers dans ce domaine qui est GreenWave Technology et qui nous fournit la puce, l'intelligence dans notre prochain casque qui sortira en fin d'année.
Et plus généralement, donc on parlait dans les exemples précédents de l'importance du soutien de l'État soit dans les sites industriels, soit dans les nouvelles technologies. Vous faites partie d'un projet de Deep Tech avec l'État, avec GreenWaves, avec aussi la start-up NowX Technology que l'on a reçue il y a quelques semaines. C'est important ce soutien de l'État pour aller vers ces technologies de rupture?
C'est fondamental. On est sur un marché qui évolue vite. Le marché de l'audio est très concurrentiel au niveau mondial avec beaucoup d'acteurs américains et des acteurs chinois. Le soutien de l'État est là pour soutenir notre recherche de fournir les écouteurs de demain sur le marché de l'audio. Pour ça, c'est associé avec GreenWaves, avec NowX, mais également avec deux universités que sont Télécom Paris et la Sorbonne, pour se donner 3 ans avec un budget total de 20 millions d'euros pris en charge à moitié par l'État pour développer les écouteurs de demain.
Un mot donc aussi, les nouvelles technologies et les sites industriels, c'est important pour l'emploi en France. Combien vous employez de personnes, vous, la société de développement, et ensuite la sous-traitance? Est-ce que vous savez combien de personnes travaillent en Bretagne et dans la Manche pour fabriquer les casques Eurosound?
Alors, au sein d'Eurosound, aujourd'hui, on a 20 personnes. On a 10 recrutements en cours sur l'année pour arriver à une trentaine de personnes dans nos effectifs. On recrute également 2 personnes à l'étranger pour commencer à avoir une assise également.
Des
commerciaux, des ingénieurs d'application, surtout. Après, sur le nombre d'emplois créés au sein de notre réseau de sous-traitants, c'est toujours un petit peu compliqué à chiffrer. Nos lignes de production sont aussi faites pour minimiser le travail humain qu'on peut avoir sur les lignes de production.
Merci beaucoup Pierre Guéhu d'être venu sur le plateau de la France à tout pour réussir pour nous parler donc des projets d'Eurosound qui vient de lever il y a quelques semaines 5 millions d'euros, start-up qu'on suit depuis longtemps et le succès va être au rendez-vous encore longtemps, vous le souhaitez. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup.
On poursuit sur un tout autre secteur à présent, celui de la franchise, puisque c'est ce week-end que s'ouvre à Paris, c'est ce dimanche, donc Franchise Expo Paris. Pour en parler, 2 invités. Bonjour Sylvie Gaudy.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes la directrice du salon, ainsi que Benoît Lahaye. Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes le président président et fondateur du réseau Attila. On est là dans le domaine de la maintenance et de l'entretien des toitures. Et depuis presque les débuts de la société Attila, vous avez fait le choix du système de franchise. On va commencer avec vous, Sylvie Gaudit, directrice donc de ce salon 2023. C'est la 41e édition, salon créé en 1981. On est à un an des JO. J'ai l'impression que vous avez fait vôtre la devise un peu olympique, plus grand, plus haut, plus fort. C'est un peu le résumé de cette édition 2023.
C'est très gentil, mais merci beaucoup. Oui, oui, on essaie vraiment de développer ce secteur qui de lui-même se développe, on va dire, de manière exponentielle, puisque on est sur une croissance du nombre de réseaux. On est à 1972 réseaux aujourd'hui qui opèrent en France pour presque 830 000 points de vente. Donc, il y a une belle croissance de ces niveaux-là. Oui.
Et un chiffre d'affaires, je crois, qui frôle les 77 milliards d'euros.
Exactement, hein, 77 milliards d'euros. Et je rajouterai un dernier chiffre, c'est le nombre d'emplois créés direct ou indirect par le modèle de la franchise qui est aux alentours de 830 000.
Alors on revient à cette édition 2023. Donc vous êtes, c'est un point important, je parlais de plus haut et de plus grand, au pavillon 1. Ouais. Avant vous étiez les pavillons 2 et 3,
pendant très longtemps.
Là c'est le site premium qui vous accueille. Ça marque quoi? C'est plus d'exposants, plus de visiteurs attendus? C'est quoi le.
C'est vrai, une vraie rupture avec les années passées. On est sur un hall qu'on connaît bien juste avant nous. On en rigole aujourd'hui, on avait le salon de l'agriculture
et
l'égérie du salon de l'agriculture. On va avoir nos propres égéries là sur le salon. C'est un pavillon 1. Il nous permet surtout de mieux réorganiser le salon, de permettre une expérience aux visiteurs plus confortable, de repérer plus facilement les enseignes ou les exposants qu'ils souhaitent rencontrer dans un hall qui a une hauteur sous plafond que tout le monde envie. Donc voilà, ça va donner beaucoup d'ampleur à ce salon.
Et je précise, parce qu'on a parlé du pavillon 1, mais c'est donc bien le parc Paris Expo, donc porte de Versailles.
Oui.
Les chiffres clés, nombre d'exposants cette année et nombre de visiteurs attendus d'ici mercredi prochain.
Alors, on va avoir 570 exposants présents au salon, dont 470 enseignes qui sont donc autant d'idées pour entreprendre pour tous ceux qui voudraient lancer leur projet, et on attend entre 32 et 35 000 visiteurs pendant les 4 jours du salon.
Le mot clé, je reprends le mot clé que vous venez de dire à l'instant, c'est entreprendre. On l'aime beaucoup sur cette chaîne. Vous avez un positionnement de plus en plus clair sur faire de cet événement un rendez-vous incontournable pour l'entrepreneuriat.
Exactement, c'est vraiment l'idée de Franchise Expo, c'est de donner aux porteurs de projets ou à toute personne qui se questionne en se disant: est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour moi et qu'est-ce que je dois faire sur Franchise Expo, j'ai envie de leur dire: osez venir nous voir, osez entreprendre, et vous allez être accompagné déjà dans la constitution de votre projet. Est-ce que c'est fait pour vous? Comment je vais le financer? Où est-ce que je peux m'implanter? Et puis la cerise sur le gâteau par rapport à tout événement entrepreneurial, c'est qu'on emmène autant d'idées qu'il n'y a d'enseignes exposantes, dont Attila par exemple.
On parlera dans un instant donc avec vous. Un mot sur ce site Tous Entrepreneurs aussi, qui accompagne justement cette volonté que vous avez de développer l'entrepreneuriat. On va voir quelques images de ce site. C'est quoi le but de cette plateforme?
C'est vraiment dans la même logique que le salon. On a voulu, plutôt que de s'appeler franchiseparis.com, qui est le site, on va dire, un peu référent de Franchise Expo Paris, de se dire: on veut donner la parole et où on veut donner des conseils à toute personne qui a un projet de création d'entreprise. Donc on a lancé une plateforme en novembre dernier qui s'appelle Tous Entrepreneurs, et là on va donner des bons conseils. On va aussi faire témoigner des personnes qui ont passé le pas, qui se sont lancées, quelles que soient leurs origines sociales, raciales, tout ce que vous voulez, et qui se sont lancées et qui ont réussi, et voire même des personnes qui ont rencontré des difficultés dans leur parcours d'entrepreneur, qui vont témoigner, qui osent le dire, parce que le parcours d'entrepreneur, c'est pas un parcours facile, faut y aller, et qui vont dire: voilà, ou moi je me suis trompée, comment je me suis redressée, et donc prenez-en acte et essayez de le faire au mieux.
Et quand on se lance dans la franchise, vous diriez que c'est uniquement un projet de reconversion, c'est une deuxième étape, ou est-ce que c'est un projet initial de vie?
Alors ça c'est les deux, hein. De plus en plus on a une population qui s'est rajeunie sur le salon et sur l'entrepreneuriat en général, et on a maintenant des personnes qui, en sortie d'études, plutôt que de commencer une vie de salarié dans un groupe ou un autre, se disent: moi j'ai envie de créer ma boîte. Alors soit elles la créent en devenant franchisés, et on en a de plus en plus, voire même on a des exemples de personnes qui sont devenues franchiseurs, donc qui avaient une idée, qui se sont dit: est-ce que ce concept est duplicable et pourquoi pas me lancer. On a beaucoup d'exemples sur le salon.
Benoît Lahaye, le franchiseur que vous êtes, il recherche quel type de franchisé pour son réseau?
Des gens passionnés par l'humain, avec une grande ambition d'entrepreneuriat, c'est-à-dire
souvent les profils sont des gens qui se retrouvent plus dans les grands groupes et qui ont envie vraiment d'entreprendre leur vie et qui ont vraiment un côté vraiment territoire, terroir, et on parlait d'emploi. Nous, dès qu'on crée une société avec un franchisé, c'est au minimum 15 emplois dans la ville où le franchisé s'installe.
Et je note d'ailleurs une forte présence des régions, des communes, des départements. C'est important, ce maillage territorial que permet la franchise.
Oui, tout à fait. Alors, on a une présence qui s'accentue d'année en année des représentants des territoires qui viennent soit exposer pour complètement exposé tant aux enseignes d'ailleurs qu'aux candidats les possibilités d'implantation, les aides qu'elles peuvent apporter. Et puis on en a beaucoup qui viennent visiter, qui vont aller à la rencontre des enseignes et dire ben voilà, moi mon centre-ville, j'ai X points de vente vacants, je recherche le chausseur, l'optique, le boulanger, pourquoi pas vous, et donc mettre en avant leurs atouts.
On en vient donc, même si je vous ai déjà donné la parole, à ce réseau Attila dont vous êtes à la tête depuis quelques années déjà, je crois une vingtaine d'années.
Exactement.
Absolument. Attila d'abord, ce nom, c'est la question qu'on vous pose mille fois. Le nom a une connotation un peu négative. Pourquoi avoir pris ce nom-là quand
Alors
même
ça dépend déjà où on se situe au niveau de la planète.
Absolument.
Ça peut avoir une connotation positive.
Voilà.
Attila vient de la toiture où justement il y a la prolifération de végétaux et où Attila passe, l'herbe ne repousse pas.
Ben voilà, je comprends mieux. Donc la création 2023. Est-ce que vous étiez vous déjà dans ce secteur quand vous avez créé l'entreprise?
Oui, alors moi c'est mon métier d'origine, et dans l'artisanat notamment. Et l'idée d'entreprendre dans un concept de franchise, c'était d'y amener une vision beaucoup plus processée, beaucoup plus organisée. Et donc de ce savoir-faire initial, on en a fait une entreprise structurée, organisée, avec l'envie de s'attacher à des gens passionnés et qui ont envie de prendre les choses en main. Donc ce qu'on appelle des franchisés, qui sont des vrais entrepreneurs. Et c'est, je trouve ça bien que le titre, ce soit tous entrepreneurs et pas tous franchisés.
Ah oui.
Parce que c'est avant tout une histoire d'entrepreneur.
Donc la création en 2003, vous avez ensuite en 2006 opté définitivement pour le modèle de la franchise.
Exactement.
Pour quelles raisons? C'était plus efficace en termes de développement de votre marque?
Alors c'est un des modèles de création. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en franchise, quand c'est votre argent, quand c'est votre entreprise, la performance est souvent supérieure. Et donc c'est un bon mélange entre un savoir-faire de franchiseur et, je dirais, un investissement du franchisé. Donc on est tous les deux entrepreneurs et on décide ensemble d'aller développer une marque qui fait sens dans notre vie au quotidien.
2023, c'est quoi les chiffres clés? Nombre de franchisés et nombre de collaborateurs sur l'ensemble des magasins?
Alors l'ensemble des magasins, c'est passé la barre des 1200 sur l'ensemble des magasins. Donc voilà, on voit la puissance. Et le nombre de franchisés recrutés, c'est 25. Donc sur des profils très différents, des managers. Souvent on associe notre métier de toiture comme s'il fallait être technicien. La technique, ça, on la doit. En tant que franchiseur, on la doit à notre franchisé et c'est quelque chose qui doit être excellent. Mais les profils ne sont souvent jamais du milieu. C'est pour ça qu'au niveau de ceux qui nous écoutent...
Vous cherchez plus des managers que des techniciens?
Des gens, oui, c'est ça. Managers, commerciaux, pourquoi pas techniciens, on ne va pas être fermé. Mais c'est d'abord tout quelqu'un qui a un vrai projet, qui se dit « j'ai envie de prendre ma vie en main et d'avoir mon entreprise ». Et souvent, c'est une histoire, encore une fois, je le redis, de vision humaniste et bien sûr économique. Mais il y a un vrai projet humain derrière ça.
Le modèle économique, le contrat qui vous lie avec les franchisés, c'est des contrats pluriannuels. Qu'est-ce que vous
prenez? En général, c'est des contrats de 5 ou 7 ans. Avec ce qu'on appelle chez nous un droit d'entrée qui permet d'accéder à tout le savoir-faire du franchiseur avec une redevance qui donne accès à plein de services qu'on n'a pas quand on est indépendant. Donc il y a vraiment, faut regarder, hein, moi je faut regarder comment on a envie d'entreprendre, mais en franchise il y a beaucoup d'avantages, ça reste néanmoins un vrai métier d'entrepreneur.
Le droit d'entrée à quel niveau? Le pourcentage à quel
Alors,
niveau?
Alors, chez nous, c'est 26 000 euros de droit d'entrée et la redevance, c'est 6 plus 2. Donc, on dissocie les 6 pour le fonctionnement et les 2 pour la communication, ce qui fait 8 au total.
Et les services que vous apportez? Vous nous parliez de la palette de services. C'est quoi? C'est les services RH? C'est de la formation?
En fait, vous êtes une PME qui est bénéficiée d'un service d'une ETI. C'est vraiment ça, c'est l'idée de vous bénéficier de services marketing, de services formation, de services RH, de services grand compte, de services central d'achat, de services de QHSE, qualité sécurité. Donc vous avez à votre disposition tout ce qu'une très grosse entreprise pourrait avoir alors que vous êtes plutôt une TPE, PME.
Le salon Franchise Expo, qu'est-ce qu'il vous apporte? Être là, c'est important. Pourquoi? C'est vraiment du recrutement, du développement qui vous pousse à être ici?
Pour être très sincère, non. C'est le être au contact avec les gens qui se posent des questions et partager un petit peu la vision du monde, parce que quand nous on vient au salon, on sait très bien que les gens sont pas matures encore sur leur niveau de réflexion et qu'ils cherchent. Donc nous, c'est vraiment aussi un engagement de côtoyer nos pairs, de côtoyer les experts. Il y a un salon d'experts qui est incroyable, des avocats, des conseils, donc faut vraiment venir voir au salon. Nous, on n'est pas là pour se dire on va recruter 10 enfin, je veux dire c'est pas le sens même qu'on donne à notre participation. C'est rencontrer des porteurs de projets et faire en sorte qu'on puisse se rencontrer si les valeurs sont communes.
Vous avez combien à l'heure actuelle de franchisés? Vous me parliez un nombre de collaborateurs, mais je crois qu'il y a
on a 120 franchisés.
Voilà. Et votre objectif, c'est le
doubler assez rapidement. L'objectif final, c'est 350.
À quel horizon?
Alors 200 précisément à 2025. Donc on va accélérer. Il y a une accélération aussi en interne. C'est-à-dire que c'est aussi un point important. C'est quand les franchisés vont bien, ils ouvrent un point, deux points, trois points. Donc on va avoir une accélération externe et une accélération interne.
On parlait avec Sylvie Gaudy du maillage territorial. Vous êtes présent vraiment dans toutes les régions de France.
C'est un des savoir-faire du franchiseur, savoir découper des territoires pour pouvoir garantir ou du moins performer sur le maillage. Donc nous, c'est des maillages en effet de... Nous, c'est en nombre de toits, 7500 toits professionnels.
Un mot pour terminer, parce que dans cette émission, on aime bien la transmission, cette idée de transmission et de soutien les uns aux autres. Je crois que vous-même, vous soutenez des projets à caractère écologique sur la plateforme KissKissBankBank.
Là, c'est vraiment, on dépasse le concept de la franchise Attila. C'est d'aller financer des start-upers, des créateurs sur des projets plutôt donc écologiques, et de faire en sorte qu'au-delà de les financer, on puisse se réunir en fin de chaque année pour que nous, qui sommes d'une taille un peu plus grande, on comprenne quel est le mouvement profond et que nous, on puisse aussi les aider avec notre marketing, notre informatique, qu'on puisse aussi les accompagner. Donc là, on sort un peu du projet, mais par contre, on a besoin que les grandes entreprises et les plus petites soient ensemble.
Eh bien, merci beaucoup Benoît Lahaye, merci beaucoup Sylvie Gaudy,
merci Jean,
d'avoir été les invités de La France a tout pour réussir. Donc si le modèle de la franchise vous intéresse, c'est donc à partir de ce dimanche et jusqu'au mercredi 22 mars, pavillon 1 donc du parc des expositions de la porte de Versailles à deux pas de BFM. Cette émission est diffusée en télé, en radio et sur le digital à 14h30 le vendredi, le samedi à midi, le dimanche à 15h30 et bien sûr sur l'ensemble de nos supports digitaux. La semaine prochaine, je recevrai une autre entreprise qui a fait le choix de la franchise, c'est Iri Jardin. Et puis BWT France, à l'occasion de la journée mondiale de l'eau, on fera un zoom sur ce groupe autrichien qui est très implanté en France, où il développe des solutions de traitement des eaux industrielles. D'ici là, très bon week-end, très belle semaine et à bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.